Donc là, on a souligné les gros enjeux de la privatisation de l'éducation. Donc on a souligné notamment le désengagement de l'État face à ses responsabilités. Donc l'éducation doit être un bien public, un droit fondamental. Donc le manque de volonté des États d'investir dans l'éducation publique. On a souligné également la concurrence entre les établissements publics et privés, avec les établissements privés qui souvent viennent s'implanter à côté des établissements publics, et aussi le problème des enseignants, où dans les établissements publics, parfois il est plus facile d'enseigner car on recrute des bons élèves, donc certains enseignants vont souhaiter enseigner dans les établissements privés dans les grandes villes. Le besoin de statistiques qui soient pertinentes et efficaces sur les établissements privés, les inégalités dans la distribution des ressources en fonction des pays, le financement, la question du financement des établissements privés par l'État qui se ferait justement au détriment de l'éducation publique. La privatisation dans le public avec la question des cours de renforcement et l'accès à l'alphabétisation qui certaines langues ne sont pas codifiées et en Côte d'Ivoire le budget de l'État par exemple ne prend pas en compte l'alphabétisation dans le budget. Donc, pour faire vite, les solutions, responsabiliser l'État, mettre en place des indicateurs d'inégalité, réguler les établissements scolaires privés, augmenter la participation des communautés enseignants à la conception ou à la construction des établissements scolaires, supprimer la sélection à l'entrée des écoles, interdire les cours de renforcement dans le public, améliorer la gouvernance des systèmes éducatifs en faveur d'une école publique de qualité gratuite partout, promouvoir la responsabilité sociale des écoles et leur intégration dans le tissu local, réguler les curriculums, imposer le respect donc des programmes officiels, décentraliser les écoles publiques. Et un dernier point, c'était les solutions qui font consensus, donc celles qui font débat, vite fait, arrêter de subventionner les établissements privés, impliquer les institutions multilatérales pour qu'ils proposent des orientations, instaurer des barèmes pour les frais d'inscription, mettre en place des impôts pour les financeurs, adopter un discours plus progressif vers l'école publique avec un plaidoyer plus fort de la société civile. Et un point qui est très important, en fait, c'est surtout la question de la définition et des types d'établissements scolaires. Donc, qu'est-ce qu'on entend par établissements scolaires privés ? Donc, on peut distinguer deux types, les établissements marchands, avec les établissements qui sont alignés au prix du marché, à but lucratif. On peut prendre comme exemple les entreprises. Et ensuite, les établissements non marchands, à but non lucratif, à but social, où il n'y aurait pas de sélection à l'entrée. Et là, on parle plutôt des écoles communautaires, ONG et religieuses. La question, voilà.
Merci Léa d'avoir tenu le temps. Et je passe juste la parole à Maudy qui va nous parler de l'atelier recrutement, conditions de travail et formation des personnels éducatifs. À toi la parole.
Voilà, merci Jean-Hervé. Je rappelle que vous avez été le modérateur de cet atelier, un atelier introduit aussi par M. Sidi Boudit, qui nous a un peu parlé du cas de la Mauritanie, donc en termes de recrutement, de conditions de travail et de formation des enseignants. Je ne vais pas faire le résumé parce que c'est carrément intégré dans le rapport qu'on va présenter. Donc le thème c'était le recrutement, conditions de travail et formation des personnels éducatifs. Et le débat s'est posé en termes d'impact de la marchandisation sur la fonction enseignante. C'est structuré comme tel, les généralités, le recrutement, les conditions de travail et la formation. Et donc à chaque niveau, nous avons mis de part les enjeux et les problèmes et de l'autre côté, les défis et les solutions. Merci. Et donc, sur les généralités, ça on l'a dit tout à l'heure, l'atelier reconnaît le désengagement progressif donc, de l'État, de sa mission de garant de l'éducation publique, qui affecte le travail des personnels d'éducation. ce qui entraîne une mauvaise gouvernance quelque part de l'éducation publique, que le métier de l'enseignant était un métier noble, mais maintenant le choix du métier n'est pas, les gens ne s'engagent pas dans le métier par vocation, mais beaucoup plus pour d'autres raisons, dont la sécurité de l'emploi, que la subvention du privé sur des fonds publics. Cette question a fait débat entre nous. Vraiment, on a beaucoup débattu avec tous les groupes, surtout si le mode de subvention n'est pas démocratique. Il y a des pays où ce sont donc les écoles confessionnelles qui ont subventionné, les autres non. Et donc, il y a le problème aussi donc, des enseignants du public qui travaillent aussi dans le privé, alors qu'on sait que dans les lois et dans la réglementation, ça dit tout autre chose. Que la privatisation impacte sur la santé de l'enseignant, parce que vouloir faire ses heures de travail à l'école, utiliser ses après-midi pour être dans le privé, utiliser ses week-ends pour être dans les maisons, à un certain moment, ça impacte sur la santé de l'enseignant, sur la recherche et même sur l'éthique. Que la problématique de la question aussi des écoles privées de formation d'enseignants, c'est un fléau que les États doivent arrêter, parce que l'État doit être le pourvoyeur justement de la formation des éducateurs. La charge des ménages, comme en RDC, qui supporte le coût justement du privé à cause du désengagement de l'État. C'est-à-dire que l'État se désengage progressivement, mais de l'autre côté, c'est comme s'il laissait l'école justement au bon vouloir donc des familles, et ces familles-là doivent supporter justement les salaires des enseignants. Non-respect des lois et règlements en vigueur qui garantissent la défense de l'éducation publique, parce que dans tous les pays, il y a des lois qui sont là, des réglementations qui sont mises en place, mais qui ne sont pas respectées. La disqualification et la précarisation donc des métiers dans le non-formel, mais aussi la fracturation de l'éducation et du métier, victime de la valeur marchande et du rapport consommateur des élèves et des parents. Et donc, en termes de défis et de solutions, nous pensons que la démocratisation favorise le développement de l'éducation, que l'éducation publique doit être protégée au plus haut niveau de l'État, comme la tendance au niveau donc, du Rwanda, où on a une tendance à la fermeture donc, des établissements, un groupe l'a dit tout à l'heure, la diversification des offres pour maintenir les étudiants justement dans le public, comme ça se passe un peu au Canada, rompre avec la ségrégation dans la fonction, créer des mouvements sociaux dynamiques pour trouver avec les décideurs des alternatives à la marchandisation de l'éducation. Le fait de le constater, c'est quelque chose, mais le fait d'avoir maintenant une société civile assez soudée avec la presse, avec les APE, et discuter maintenant avec les décideurs d'alternatives, pour nous, ça peut être aussi une piste. Réhabiliter, ça peut permettre de réhabiliter l'école publique, contrôler le respect des normes et règles donc dans le privé, promouvoir ou élaborer un code de déontologie justement de l'éducateur, si l'on sait que justement sur ce plan-là, ça pose problème. Il y a des pays où ce sont les familles qui payent justement les enseignants qui sont à l'école, et donc de l'autre côté, les enseignants ne peuvent pas avoir un gros mot devant ces enfants-là ou devant ces familles. Donc ça pose problème. Sur le recrutement pose énormément de problèmes. Le niveau est faible, le recrutement est basé, il y a du recrutement basé sur de la recommandation dans plusieurs pays, absence d'égalité donc des chances, selon qu'on est enseignant dans le formel ou dans le non-formel, refus du privé aussi de recruter la qualité à cause des coûts, comme ça se passe au Mali. Et donc, ici, nous avons dit qu'en termes de défis et de solutions, qu'il faut exiger la qualité et la transparence dans le recrutement. Il faut promouvoir l'égalité des chances de réussite dans le recrutement. Il faut disposer d'un bon système de protection sociale des enseignants. Il faut aussi promouvoir l'incitation à la fonction enseignante. Il y a des pays qui le font. Dans certains pays, une prime d'incitation est allouée. Et ça pousse les étudiants à se dire pourquoi pas. Promouvoir aussi l'abolition de la contractualisation, et là ça a été vraiment discuté, les gens pensent que la contractualisation doit être arrêtée. Sur les conditions de vie et de travail, donc les conditions de vie sont précaires des enseignants, que les enseignants combinent le privé et le public à cause de la précarité. Dans certains pays, le salaire est différent selon qu'on est enseignant du primaire ou du secondaire, bien que le diplôme soit égal. Et donc ça, c'est pas normal. Et qu'il y a aussi une absence de sécurisation de la carrière de l'enseignant dans certains pays, ce qui ne lui garantit pas des lendemains sûrs. Et donc là, en termes de défis et de solutions, prise en charge de la sécurité sociale des enseignants, œuvrer pour un plan de carrière motivant des enseignants, mais aussi harmoniser les grilles indiciaires pour les mêmes grades avec les autres secteurs aussi de la fonction publique. En certains moments, ça fait débat ici au Sénégal entre les inspecteurs qui ont les mêmes grades que d'autres qui sont dans d'autres secteurs de la fonction publique. Pourtant, les salaires ne sont pas forcément les mêmes. Et donc sur la formation des enseignants, nous avons sur tous les problèmes donc énumérés, on en a relevé deux, l'inadaptation des offres de formation donc des enseignants et l'absence aussi de formation continue. Et donc là, ce qu'on a proposé, c'est de former les gens à être connectés donc, à leur temps avec une bonne connaissance des indices. Aujourd'hui, les apprenants sont beaucoup plus branchés que justement les enseignants donc, par rapport aux indices et autres. Et donc pour nous, il faudrait recadrer justement les enseignants dans cette fonction-là. Allier la formation initiale et la formation continue, centrer les formations des enseignants sur les besoins et centres d'intérêt des apprenants, parce que justement, voilà, les intigues le montrent, recourir donc au système d'évaluation des performances, recycler et mettre à jour aussi les formateurs d'enseignants. Parce qu'après, on vise beaucoup les enseignants, alors qu'on sait que de l'autre côté, même les formateurs ne sont pas à jour. Je pense que c'est ça qu'on a voilà, proposé pour l'atelier. Merci beaucoup.
Bravo. Bon, alors, il va nous rester un petit temps pour le débat. Je remercie beaucoup, ça marche là, je remercie beaucoup les rapporteurs. Et je tenais à préciser que les quatre ateliers que nous avons eus hier après-midi, ils ont tourné. Donc, le rapport qui a été fait, ce n'est pas le rapport nécessairement de l'atelier que vous avez vécu, mais c'est une synthèse des quatre ateliers qui ont tourné. Et donc, certaines questions, effectivement, ont été tranchées, et d'autres, vous l'avez vu, ont dit, ces questions ont fait débat. Donc, ce que je vous demande, c'est éventuellement ceux qui souhaitent intervenir, apporter des précisions, donner des petites indications. On va passer un micro et je vois déjà une main qui se lève là-bas et c'est Cher qui va vous passer le tu prends le micro qui est là peut-être il y a un micro là, ok, par exemple, voilà. Donc soyez bref dans vos, parce qu'on, voilà, oui, voilà, soyez bref dans vos interventions. Dès que j'ève la main, s'il vous plaît, vous me regardez et vous arrêtez de parler, vous passez au suivant. Merci beaucoup. Et vous présenter.
Oui, merci. Vas-y. Je suis Roger Kafofoku du SNAES Cameroun. Je voudrais intervenir par rapport à un point. Dans une des présentations, on a parlé des contre-arguments. Et dans ces contre-arguments, on a évoqué le fait que l'excès de grève dans le secteur public était une raison de rechercher les écoles privées. Je pense que valider un argument comme ça, c'est un peu paradoxal, parce que en réalité, ça peut s'apparenter à une remise en question du droit de grève. Ça peut aussi faire penser que les gens font des grèves dans le secteur public pour s'amuser, qui n'ont pas une vraie raison. Alors qu'en réalité, justement, si le secteur public marchait bien, on n'aurait pas besoin d'y faire des grèves pour quoi que ce soit. Donc je pense, je souhaite qu'on revoie bien cet argument-là.
Merci. Derrière, Fridolin, oui.
Oui. Bonjour.
Michel, vas-y.
Michel Olivier de la FSU en France. Je n'étais pas là hier, donc forcément, je n'ai pas eu l'intégralité des débats. Mais je suis très étonnée d'une des choses qui vient d'être proposée comme solution, c'est le recours au système d'évaluation des performances. C'est ce qui se fait aux États-Unis, c'est ce qui se fait au Royaume-Uni, par exemple, et c'est vraiment catastrophique. Moi, je ne sais pas ce que vous entendez, ce que vous mettez derrière évaluation des performances, mais c'est aussi ce qui se passe, par exemple, dans la fonction publique en France, dans les hôpitaux, etc. Et ça mène vraiment à des catastrophes parce que la responsabilité des enseignants, la responsabilité du système n'est pas engagée suffisamment. Et au final, ce sont les enseignants qui sont considérés comme responsables de l'échec du système. Enfin, moi, je suis vraiment très étonnée d'entendre ça. Voilà.
Merci. Merci. Y a-t-il d'autres interventions ?
Oui. Pascal Gascoin des CMA France. Je vais juste réagir. J'ai très peu entendu parler de numérique dans tous les retours qu'il y a pu avoir. Bon, il y a un atelier cet après-midi, on aura l'occasion d'en parler. Ceci dit, juste en quelques mots, c'est quand même une privatisation à l'œuvre dans l'éducation au travers de la captation des données, au travers de l'intelligence artificielle et autres. On aurait tort de ne pas suffisamment s'en préoccuper. Voilà. Bon, on verra avec l'atelier, peut-être qu'on en reparlera ensuite dans les jours qui viennent, mais il faudrait vraiment qu'on soit vigilant à cela.
Y a-t-il d'autres questions? Claude?
Oui. Oui, bonjour. Lynn du Québec. Moi, j'aimerais apporter une nuance à la restitution du... pas à ce qui a été dit à l'atelier 1, mais ça me fait réfléchir quand j'entends que les enseignants doivent innover, lorsque j'entends que les enseignants doivent avoir de l'éthique, un code de déontologie, qu'ils doivent être motivés. Parce que chez nous, ce qui se produit, c'est qu'on fait justement reposer tout sur les épaules des enseignants. Et ils ne se posent pas la question qu'il y a un problème d'organisation du travail. C'est les enseignants qui ne sont pas assez motivés, qui résistent aux changements technologiques. Et alors que ce n'est pas comme ça, moi, je le prendrais à l'envers. Je dirais, l'État, le gouvernement, doit fournir de bonnes conditions aux enseignants, doit fournir des ressources, doit fournir de la formation pour qu'on utilise les technologies. Et par le fait même, nous serons motivés et nous pourrons mieux accompagner nos jeunes. Donc, ce n'est pas en faisant reposer tout sur les enseignants. Il est vraiment, Michel abordait la question qu'on voit, le fait qu'on voit une nouvelle gestion publique où c'est l'individu qui porte le fardeau. Et lorsqu'on parle de désengagement de l'État, vous en avez un exemple. Alors, il faut bien placer que c'est le gouvernement qui doit fournir de la formation adéquate, qui réponde aux besoins des enseignants. Et puis là, ça nous sera possible d'être motivés et pouvoir mieux accompagner les jeunes.
C'est bon. Encore oui. Louis?
Je voudrais juste intervenir par rapport à ce que disaient mes amis syndicalistes tout à l'heure, par rapport à ce diagnostic que nous avions fait. Mais je crois comprendre que l'état des lieux qui a été fait pour dire réellement quelles étaient les causes qui font que les parents et même les enseignants que nous sommes, c'est parfois, sont obligés d'envoyer nos enfants dans le privé. Donc, parler des grèves, ce n'est pas dire que on ne reconnaît pas le droit de grève. On est en train de citer ici les raisons qui font que souvent les gens ou les parents et même les enseignants envoient leurs enfants et c'est l'une des raisons. Donc on n'a jamais dit que c'est la raison principale, mais on ne peut pas ne pas le dire. Il faut réellement le dire, sinon on aurait fait un état des lieux qui n'embrasse pas tous les aspects. Voilà ce que je voudrais dire. Merci.
Merci.
Parler dans une présentation d'un changement de paradigme qui aboutirait à communiquer sur l'éducation publique en la valorisant. Je ne sais pas si dans cette communication, on ne va pas parler du virtuel plutôt que du réel. Parce que le réel de l'éducation publique, dans la plupart des pays, ne mérite pas réellement qu'on dise que c'est très bien, les parents laissent venir. Nous, on se bat pour dire que l'éducation publique a des problèmes et qu'il faut améliorer l'éducation publique. Alors, quand ça ira mieux, peut-être qu'on va communiquer et dire aux gens, ça va mieux maintenant, venez-y.
Merci. Alors, on va juste demander au rapporteur... une dernière intervention.
C'est pour dire que je partage l'avis du président du RADEB, M. Paul, que les grèves sont une des raisons quand même du choix des parents d'amener les enfants dans le privé. On ne peut pas l'ignorer. L'enlever, ça ne voudrait pas dire qu'on, comme il l'a dit, qu'on a quelque chose contre la grève, mais c'est un constat réel. Et je pense qu'aujourd'hui, on est là pour analyser le problème dans sa globalité. Ça, on ne peut pas l'ignorer.
Merci. Alors, Carole va nous répondre au sujet de l'innovation.
Oui, c'est Lynn du Québec, c'est ça ? Je sais pas si... en fait, c'est peut-être la présentation qui a fait qu'il a fallu aller rapidement, mais c'est bien ce que j'ai dit. C'est-à-dire que la motivation, c'est pas il faut des enseignants motivés et ça changera tout. C'est effectivement l'État, les conditions de travail, une bonne rémunération. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont été citées. Fait que la motivation fera une éducation de qualité. C'était vraiment ça qui était ressorti et je pense que effectivement la présentation PowerPoint fait que peut-être ça raccourcit un peu et je n'ai pas tout lu, mais c'était vraiment ça. Pareil, l'innovation, ce qui a été dit, sur l'innovation, c'était pas de pousser à l'innovation, c'était de dire qu'il y avait aussi de l'innovation dans le public et qu'il fallait aussi laisser plus de, peut-être, de souplesse pédagogique. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites aussi sur la réforme des curricula, sur un enseignement de qualité, c'est aussi un enseignement des valeurs. Il y a eu des thématiques qui ont été citées. Et donc, c'était ça. C'était aussi de permettre aux enseignants du public d'innover, d'expérimenter, d'aborder des thématiques qui attirent aussi les familles et qui font que l'enseignement est plus adapté au contexte. Après, sur la communication, l'éducation publique, enfin des campagnes de sensibilisation, de promotion, de valorisation. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans le débat, c'est ce qui est ressorti de l'atelier. Il y a plusieurs personnes qui l'ont dit. Je pense que l'idée, c'était pas communiquer sur effectivement ce qui ne marche pas, mais justement, hier, dans les recherches qui ont été présentées, il y a aussi plein de choses qui marchent dans le public. Il y a des indicateurs sur des enseignants, par exemple, il y a quand même les indicateurs qui sont remontés dans pas mal de présentations hier. Comme quoi les enseignants du public étaient par exemple plus qualifiés. Il y a des exemples de réussite et l'idée c'était de les valoriser aussi. Voilà, c'était ça la notion de changement de paradigme.
Merci. Alors moi je vais m'exprimer au nom de l'atelier numéro 4 recrutement conditions de travail puisque j'étais le modérateur de cet atelier. Alors, on a aussi abordé la question de la grève et effectivement vous avez vu, hein, il y a eu des interventions ici. Alors les grèves, c'est un symptôme du dysfonctionnement de l'école. Les professeurs n'ont pas envie de se mettre en grève pour le plaisir. Il y a des revendications. Et ce qui a été dit, ce qui est intéressant, c'est que même dans les écoles privées, à partir du moment où il y a des dysfonctions et que dans les écoles privées, eh bien, le souci de l'action collective se fait jour, y compris dans ces écoles, les enseignants pensent à se mettre en grève. Et donc, cette différence, disons, public-privé, va s'estomper ici. Donc, c'est important de dire que c'est un symptôme du dysfonctionnement, hein, du dysfonctionnement général de l'école, et que les mauvaises conditions de travail, parfois, des enseignants dans le privé, peuvent aussi les conduire à faire grève. Alors en ce qui concerne, parce que c'est effectivement, ça a été présenté, l'évaluation des performances, je crois que c'est là il y a eu un petit raccourci malheureux dû aussi à la rapidité de la présentation, parce que en fait c'est le contraire qui a été dit, hein. C'est que justement il ne fallait pas entrer dans ce système d'évaluation des performances, et il fallait donc imaginer une évaluation plus responsable, plus démocratique. Et par exemple, on a parlé des corps d'inspection qui devaient rester indépendants. On a souligné le fait que les enseignants ne devaient pas être soumis à une pression, à une hiérarchie locale. Et effectivement, on voulait vraiment se démarquer des indicateurs et de la façon dont le privé manage ses équipes. On voulait au contraire dire que ça, c'était quelque chose qu'il ne fallait surtout pas copier sur le privé. Donc, effectivement, là, je rétablis les choses. Et là, par contre, ça n'a pas été une question controversée. Alors, je note cependant qu'il y a effectivement des questions qui ont fait débat, puisque certains d'entre nous sont restés donc dans les mêmes ateliers, les animateurs et les rapporteurs, et on a bien vu que les questions ne se tranchaient pas de la même façon, et donc c'est important, je crois que certains l'ont fait, de montrer qu'il y avait des questions qui restaient en débat et des questions qui faisaient accord, et c'est pour ça qu'on est tous ici à les discuter, hein, voilà. Alors, écoutez, je vous remercie, je remercie les rapporteurs, je pense qu'on peut les applaudir, ils ont très bien fait leur travail.